3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour Turbine, émission produite par le Media Lab du WIP, où nous enregistrons actuellement en différé. On remercie d'ailleurs Radio Pulse, la Station B et Radio Bazarnaum qui diffusent cette émission. Et aujourd'hui, de quoi on va parler ? Et bien évidemment, à la suite de notre dernière émission, nous avons parlé de déchets et de tri, et nous en sommes venus à plusieurs reprises à cette conclusion. Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Alors je vous l'annonce, l'émission d'aujourd'hui portera sur le thème du zéro déchet. Mais avant de passer aux choses sérieuses, comme d'habitude, je suis toujours aussi bien entourée avec mes chroniqueurs d'amour. Vous allez bien ?
Ouais, trop bien.
Wouhou ! Alors Pierre, comment ça va aujourd'hui ?
Bah ça va super, je vous ai concocté une superbe rubrique musique aujourd'hui.
Ok, on a qui d'autre ? On a Raphaël qui est à la régie qui accompagne Alixia.
Je suis là, je suis dans la place.
Ok, bonjour Alixia, à la régie.
Bonjour, j'ai peur.
Et Alain qui est en fond. Si tu veux dire bonjour.
Salut tout le monde, ça va ?
Eh ben ça va super, nous. Ok, chouette. Eh ben maintenant, je vous propose de rentrer dans l'art du sujet en commençant par écouter un petit extrait de Jérémy Pichon, militant qui travaille pour les ONG environnementales et qui a créé il y a quelques années avec sa famille le blog La Famille Zéro Déchet, famille en transition.
On a vu les déchets dans l'environnement, dans l'écosystème, à la plage, à la montagne, dans les rivières, on en a ramassé beaucoup. Et donc c'était pour nous logique d'aller au bout de la démarche, de dire est-ce qu'on peut vivre sans produire des déchets, sans avoir de poubelle. Et puis effectivement, on y est arrivé puisqu'on n'a plus qu'un bocal maintenant de déchets qui peut vivre à peu près 1 kg par an pour 4. La clé, c'est de changer ses habitudes d'achat. Donc pour l'alimentation, bah, c'est aller vers les circuits courts avec ses contenants, aller à son marché, voir son maraîcher, prendre ses fruits et légumes, avec ses sacs en vrac, prendre l'alimentation en vrac. Pour la consommation, d'aller vers l'occasion, la mutualisation. En gros, on est sorti complètement du circuit industriel et surtout des emballages. Au sens du zéro déchet, on s'attaque à la partie visible de l'iceberg de notre grande consommation qui est le déchet. Le déchet, c'est le symptôme. Quand on s'attaque au déchet, ben finalement, on s'attaque au système. C'est ça qui est assez intéressant avec le zéro déchet. On va faire des économies. Nous, on a mesuré qu'on a fait 30% d'économies en 2 ans. Dans l'alimentaire, quand on achète du vrac, on n'a pas d'emballage. L'emballage, c'est 10 à 40% du prix. Quand on fait le zéro déchet, on ne jette quasiment rien. Arrêter de consommer, tout simplement. Consommer beaucoup moins, sortir de tout ce qui est superflu et de la création des besoins autour du marketing aujourd'hui et aller vers des choses qui soient plutôt raisonnées, faire de l'occasion, de la mutualisation. Et on s'attaque au troisième tiers. Voilà comment on peut faire pour réduire sa poubelle.
Voilà, maintenant que le sujet et les enjeux du zéro déchet sont bien posés, on va accueillir nos invités du jour qui ne sont autres que Monsieur Charlie qui était présent dans une dernière émission ainsi que Frédéric Adam qui travaille pour le plateau circulaire. On vous explique tout. Jingle invité. Alors Charlie, Frédéric, bonjour à tous les deux, est-ce que vous allez bien ?
Oui, salut Analou, tout va bien, merci.
Eh bien c'est chouette. Alors pour commencer, on peut sûrement aborder la question du zéro déchet à notre échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien justement ? Et heureusement, tu es là Charlie pour nous en parler. Je le répète, tu es artiste et tu crées des spectacles comme notamment l'incroyable musée de la dynastie Poubelle que tu as réalisé en partenariat avec le CIVEDAC et dont on a parlé dans la précédente émission. Est-ce que ce spectacle a changé tes habitudes par rapport à tes déchets ou c'était déjà antérieur à ça ?
C'était déjà un peu le cas avant, enfin, même beaucoup. Disons que ça m'a forcé un peu plus en tout cas à faire attention. Et par rapport à l'extrait qu'on a mis tout à l'heure, moi je crois que c'est Jérémy Pichon, c'est ça, qui a fait un livre qui s'appelle Famille presque zéro déchet en transition. Moi c'est le livre en fait qui m'a fait tilt en fait, à me dire mais oui en fait il y a plein de choses qui sont faciles à faire. On voit toujours le zéro déchet comme quelque chose de... Bah, d'un peu à la marge, un peu compliqué, où il faut s'organiser et tout. Mais en fait, pas du tout. Ce qui est important, c'est d'aller à son rythme, d'aller par étapes. C'est pas comme arrêter de fumer ou quelque chose comme ça. Vraiment, faut se lancer des petits défis. C'est des petits jeux à faire en ouais. famille, en couple, en coloc, seul. Mais c'est des habitudes en fait, à prendre dans nos achats.
Et justement, à ce sujet, j'allais t'en parler. C'était sur la question en fait, de la charge mentale, comme tu dis, parce que c'est souvent vu comme une organisation. Donc pour ceux qui ne savent pas, la charge mentale, c'est des pensées en fait, qui prennent beaucoup d'énergie au quotidien et qui relèvent souvent, c'est une charge cognitive liée à la gestion du foyer. Et comment justement faire en sorte que cette charge mentale, elle prenne pas le dessus jusqu'à la démotivation dans la volonté de produire moins de déchets.
Ce qui est important pour moi, c'est que charge mentale, j'entends beaucoup aussi la place de la femme, et en fait c'est important pour moi que si ça se fait, enfin si vous êtes en couple en tout cas, que les rôles soient distribués en fait, et que chacun trouve son organisation et puisse faire des choses à son niveau, et voilà. Mais il y a des choses vraiment toutes simples à faire. Je vous ai préparé un petit listing de défis que vous allez pouvoir essayer de faire. C'est vrai que c'est un peu plus d'organisation, mais en fait on gagne une fois qu'on a pris le pli, comme une habitude, d'essayer se lancer un petit défi pendant une semaine, je tente ça, et en fait on rentre dedans. Et voilà. Mais c'est important vraiment de le faire tous ensemble, même si vous avez des enfants à la maison, de le faire avec eux, ils se plient tout de suite et ça devient très vite leur normalité. Moi d'ailleurs, quand j'ai préparé ce petit listing là, je me suis posé vraiment la question, dire, attends, qu'est-ce que je fais chez moi qui est en fait sans déchets? J'ai tellement l'habitude de faire sans plastique, sans choses comme ça. Alors j'en ai quand même, je vais pas le dénigrer, mais c'est tellement devenu une habitude que voilà, la dernière fois j'avais du monde à la maison, ils m'ont dit mais pourquoi t'as pas de bouteille d'eau en plastique? Ah oui, c'est vrai que ça existe, ça, des bouteilles d'eau en plastique. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Mais je vais pouvoir
qu'est-ce que toi tu mets en place par exemple, sous les formes de jeux que tu as pu essayer pour mettre en place des choses, et même là aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien concrètement?
Alors il y a différentes parties. Moi, ce qui est sympa à faire pour commencer, c'est de regarder sa poubelle en fait, regarder ce qu'on jette, poubelle noire ou poubelle jaune d'ailleurs. Il y a des choses qui sont très difficiles. La bière, le vin, l'alcool en général, c'est du verre. Ok, le verre, ça se recycle à l'infini, mais ça utilise aussi beaucoup d'énergie. Et quand on dit sans déchets, c'est aussi d'éviter tous les plastiques, tout ce qui va se recycler, parce que finalement, ça prend de la place, ça prend de l'énergie pour être recyclé. Donc quand on parle de sans déchets, c'est vraiment d'éviter un petit peu tout ça. Des choses toutes simples, un des plus gros pollueurs dans la maison, c'est les vêtements. L'achat de vêtements, c'est possible aujourd'hui de le faire autrement. Il y a des Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a des braderies, il y a Emmaüs aussi, on peut trouver plein de choses. Donc favoriser la seconde main, ça c'est facile. Un petit truc qui est après un autre domaine dans la maison, c'est tout ce qui est lessive. La lessive, vous avez des bidons de lessive à la maison, ça prend de la place, ça coûte super cher, et puis c'est pas terrible pour les vêtements non plus. Savoir que 40 grammes de savon de Marseille avec 1 litre d'eau, ça vous fait 1 litre de lessive. 40 grammes de savon de Marseille, ça doit vous coûter 20 centimes. Un litre d'eau, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et si vous achetez un vrai baril, en fait, ça vous coûte, je sais même plus combien ça coûte. Mais voilà, il y a des choses comme ça, vinaigre blanc, savon de Marseille, bicarbonate de soude, c'est un peu les choses qu'on dit, les trucs de grand-mère. Mais voilà, c'est surtout la génération de nos parents, en tout cas, qui ont pris un autre pli en allant beaucoup plus vite. Mais voilà, nous, on essaye de revenir un petit peu en arrière. Donc, lessive, c'est facile, savon de Marseille et juste de l'eau. Donc essayez, faites-le une fois chez vous. Le sol, que vinaigre blanc et de l'eau, ça lave très bien. Si vous voulez mettre une goutte d'huile essentielle, si vous voulez que ça sente le pamplemousse, ce que vous voulez, voilà. Le corps, c'est pareil, il existe aujourd'hui des savons durs, que ce soit le déo, que ce soit les shampoings, que ce soit les dents. Voilà, il y a les savons de Joya, il faut faire de la pub que pour eux, qui sont à Douvres et qui vendent un peu plus, un peu partout. Ça prend pas de place, c'est très pratique, en voyage c'est pratique, voilà. Nous on a même, donc forcément, tout ce qui est alimentaire, acheter des paniers, il y a des AMAP qui existent, il y a le vrac, utiliser les tupperwares pour acheter du fromage, de la viande si vous mangez de la viande, des gâteaux, voilà. Il existe aussi pour les céréales, voilà, d'utiliser vos sachets à vous, le compost ou les poules pour ceux qui ont du jardin, compost après ceux qui habitent en immeuble, des fois il y a des composts partagés en bas des immeubles, c'est super. pour se démaquiller, pour les pipis, pour les menstruations, bah, c'est pareil, il y a des lingettes qu'on peut faire. En plus, comme ça, vous pouvez vous mettre à la couture, faire des petits carrés en couture, ça... Bah, vous allez passer un moment sympa avec quelqu'un qui sait coudre, voilà. Nous on a ça à la maison, on a même des petits carrés de tissu pour les pipis, on a des culottes menstruelles, lavables, voilà. Les cadeaux, on n'est pas, Noël s'est passé, mais on a toujours des anniversaires, des choses comme ça. Bah, offrir des cadeaux à quelqu'un, ou à des enfants ou des plus grands enfants qui viennent du Bon Coin, du Marketplace, le site sur Facebook, bah c'est facile, enfin voilà, ça fait toujours plaisir. Les papiers cadeaux, c'est pareil, on peut les faire en tissu, ça fait des trucs très jolis. Et je donne souvent un exemple pour le spectacle des poubelles, c'est le sac à pain. Quand vous achetez une baguette, on vous met souvent un petit papier avec un emballage. Et ce sac à pain, il a une durée de vie très courte. Et en fait, si vous allez à la boulangerie avec votre sac à pain, bah déjà, vous économisez l'emballage. Cet emballage-là, il n'est pas très gros. Si vous le mettez en boule, ça fait, c'est la grosseur d'une balle de tennis. Sauf que si vous achetez une baguette tous les jours, à la fin de la semaine, ça fait plutôt un bon ballon de hand. Et au bout d'un mois, vous avez carrément un truc qui fait un peu plus gros qu'un ballon de basket. Donc, si tout le monde en fait, commence à faire ses petits efforts... le sac à pain, laver son sol, les vêtements, les lingettes. C'est tous ces petits efforts-là qui font que votre poubelle, en fait, elle diminue. Donc voilà, c'est des petites choses faciles à mettre en place, qui sont vachement économiques, qui prennent un peu plus de temps. Mais en fait, une fois que l'habitude est prise, on n'a pas l'impression de perdre son temps. Mmh. Et ça devient des petits jeux. Moi, mes enfants, quand il n'y a plus de lingettes pour aller faire pipi, aussitôt, ils paniquent, quoi. Ils me disent « Mais il n'y a plus de lingettes, comment on fait ?» Bon, il y a du PQ. On va prendre du PQ voilà. pour le pipi, hein, pour le caca. Vous pouvez utiliser du PQ normal. Mais yes. Voilà, c'est vraiment Merci. Le tout. C'est vraiment d'y aller par étapes, à son rythme et de prendre son temps.
Ok, d'accord. Ouais, donc ça, c'est la philosophie du zéro déchet.
Ouais.
C'est d'y aller par étapes et de prendre son temps. Ok. Ouais. Bah super, merci pour tes réponses. On reviendra vers toi tout à l'heure. Et du coup, comme on l'a entendu au début de cette émission dans l'extrait d'interview justement de Jérémy Pichon, les déchets que nous produisons sont que la partie immergée de l'iceberg. Alors certes, il est extrêmement important, on l'a compris dans la première émission, d'agir à notre échelle. Mais pour ce qui est de la grande échelle, des déchets que l'on ne voit pas, qu'on oublie, qu'on pense ne pas produire, est-ce qu'il y a des choses mises en place sur une grande échelle? Et heureusement, Frédéric est là et tu as quelques réponses, je pense, à nous apporter sur la question. Donc Frédéric, toi, tu travailles pour le plateau circulaire. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste?
Oui, alors le plateau circulaire, c'est une plateforme de réemploi pour dédiée au métier du bâtiment. Donc on s'intéresse aux déchets qui sont produits par le secteur de la construction. Et notre objectif, c'est de récupérer ces matériaux avant qu'ils deviennent des déchets pour les réutiliser dans la construction.
Ok.
Et tu parlais d'iceberg, effectivement, le BTP, c'est 70% des déchets produits en France. Donc c'est vraiment énorme par rapport à tous les efforts que peuvent faire les particuliers dans la diminution de leurs poubelles. C'est vraiment, voilà. Et rien que le bâtiment, c'est 46 millions de tonnes par an. À titre de comparaison, les déchets ménagers, c'est 30 millions de tonnes. Donc c'est une fois et demie plus. Alors là-dedans, il y a beaucoup de déchets qui sont des gravats, qui pèsent lourd. C'est pour ça que ça fait beaucoup de poids. Oui. Et les gravats, ce n'est pas forcément compliqué de les valoriser, surtout que ce n'est pas forcément polluant. Donc on peut en faire des graviers pour mettre sous les routes, par exemple. Mais il y a tous les déchets plus techniques, qui sont de plus en plus techniques, qui sont de plus en plus compliqués aussi à démanteler. Par exemple, une fenêtre, aujourd'hui, il y a 4 ou 5 matériaux différents qui sont assemblés. Ça peut être du PVC, du verre avec des couches basse émissivité avec des nanoparticules dedans. Enfin voilà, il y a plein de choses un peu compliquées à démonter. Et puis c'est malheureusement, quand c'est jeté, il n'y a pas de valorisation sur ces matériaux qui sont pourtant avec une belle qualité, enfin un potentiel important. Quoi.
Et du coup, ça a dû être compliqué de mettre ça en place parce que en fait, mine de rien, comme on disait, c'est des déchets qu'on ne voit pas. Donc personne n'y pense et ça a dû être un petit peu l'enquête pour essayer de créer justement cette espèce de circuit. Comment vous avez fait pour faire ça alors que je présume qu'il n'y avait rien qui devait exister en tout cas dans la région là-dessus?
Oui, alors c'est pas grand-chose. Pour le grand public, ça passe un peu en dessous des radars, mais c'est vrai que c'est quand même un secteur qui est assez contraint, le BTP, hein, par les normes. Et par exemple, il y a une norme européenne qui est imposée dès 2020. donc il y a 2 ans, le fait de valoriser à 70% tous les déchets du BTP, donc à l'échelle du BTP.
Okay.
Et on y est à peu près, sauf que les taux de valorisation sont assez faibles. Et quand on parle de valorisation, on peut avoir des choses assez basiques mises en œuvre, comme du recyclage ou même de... Quand on met les déchets sous une route pour faire du remblai, on appelle ça de la valorisation, alors que basiquement on comble un trou.
Ouais.
C'est pas, voilà, c'est pas la meilleure valorisation qu'on puisse avoir. Donc voilà, il y a ces contraintes réglementaires qui font que tous les professionnels du BTP commencent à s'y mettre. Là où ça devient compliqué, c'est pour avoir la meilleure valorisation possible, qui est le réemploi, c'est-à-dire qu'on on repasse pas par, comme tu disais tout à l'heure, pour le verre, on repasse pas par l'usine qui va refondre la matière. On va vraiment récupérer en circuit court, d'un chantier à un autre, le produit ou l'élément de bâtiment avec exactement le même usage. Donc une porte redevient une porte, un radiateur redevient un radiateur, et on va pas refondre la fonte du radiateur pour faire je sais pas quel élément de carrosserie ou autre.
Ouais, ouais.
Donc c'est ce circuit court là qui est assez compliqué à mettre en place. Parce que ça demande de changer pas mal d'habitudes, on en vient toujours à là, pas mal d'habitudes chez beaucoup d'acteurs, les maîtres d'ouvrage qui doivent se poser des questions. Les maîtres d'ouvrage, c'est les entreprises qui vont commander les travaux.
Ouais.
Ensuite, les architectes qui vont devoir se poser des questions un peu différentes. Alors même si c'est souvent la population la plus intéressée par ce genre de choses, parce que ça leur donne des nouvelles inspirations en fait pour travailler avec les matériaux, ils sont très forts là-dessus. Les démolisseurs qui sont tous contraints par des objectifs de temps, de rentabilité, et qui vont mettre beaucoup plus de temps à déconstruire proprement les matériaux plutôt qu'à mettre un bon coup de pelle dedans et les envoyer dans la benne. Donc voilà, c'est toutes ces habitudes qu'il faut changer. Et puis il y a quand même des freins techniques qu'il faut lever. Le premier, c'est le stockage. En fait, quand on est sur un projet de bâtiment, il faut deux ans de conception, 2 ans de travaux. Et en fait, quand on trouve des matériaux en phase conception, on est content, sauf qu'il faut les stocker jusqu'à la phase de travaux. Donc voilà, ce stockage-là, c'est une de nos raisons d'être, c'est de proposer à toute la filière BTP normande ce service de stockage pour pouvoir sécuriser les gisements.
Ok, je vois.
Voilà, et puis l'autre grosse, un peu plus technique, mais le gros point compliqué, c'est que toute la réglementation du bâtiment s'est faite autour de l'industrie. Toute la normalisation se fait autour de l'industrie. Et en fait, à la base, toutes les normes partent des processus de fabrication neuf. Et donc, quand on arrive avec un matériau de réemploi, on ne gaule pas du tout avec les normes. Donc,
c'est très compliqué. Ouais.
Ça pose des problèmes d'assurabilité. De garantie, évidemment.
Donc, sécurité parfois.
Ouais, ouais. De sécurité aussi. Donc, il y a toute cette démarche-là qui est en route, et on essaie de faire bouger un petit peu les choses, mais ça va prendre un peu de temps.
Ok, super. Voilà. Ben merci. Ben, on te retrouve plus tard pour la suite de l'interview. Mais en attendant, on va écouter notre ami Pierre. Ça va toujours, Pierre, pour ta chronique musicale ?
Ça va toujours. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, pour commencer la rubrique musique, je vous ai choisi le groupe La Femme. Est-ce que ça vous parle ?
Oui.
Oui, et moi je les ai connus grâce au titre Elle ne t'aime pas. Voilà, un super groupe de pop-rock français qui a débuté en 2010 à Biarritz. Et encore lycéens, les deux membres fondateurs qui sont Sacha Go et Marion Magnier mettent leurs talents en commun avant d'accueillir rapidement dans leur groupe Sam Lefebvre, Noé Delmas, puis Lucas Nuzès-Ritter, rencontrés grâce au réseau social MySpace. La chanteuse principale, qui est Clémence Kellenek, quant à elle, intègre à son tour la formation en 2012. La musique synthétique qu'on peut entendre et hypnotique de ce groupe évoque un peu la cold wave qu'on avait avec The Cure, le groupe The Cure. Et les influences du groupe sont Taxi Girl. Je vous avais déjà diffusé leur titre qui s'appelle « Chercher le garçon » dans le « Bonjour Turbine » sur la musique électronique, qui est une de mes chansons favorites de l'époque. Le Velvet Underground également. Le groupe cite surtout Jacno, que je vous invite à aller écouter aussi, c'est super sympa. Et Marie et les garçons comme ses deux principales influences. Et je vais vous diffuser le titre « Trop de peine ». Vous n'entendrez aucun chanteur ou aucune chanteuse du groupe. Le texte et l'instrumental restent bien évidemment « Made in la femme ». Puisque rien de mieux que des enfants pour passer un message fort à tout le monde. Mmh.
la plage, il y avait des mégots de cigarettes dans le sable. C'était sale, on les a ramassés jusqu'au dernier. Il y avait encore un oiseau mazouté. Putain, j'ai même pas 10 ans, j'ai plus droit aux batailles d'eau. Le monde a changé, on va tous se faire rayer par la 5G.
Retour dans Bonjour Turbine, dans cette émission dédiée au zéro déchet, et on vient de s'écouter le titre « Trop de peine » de La Femme. Nous sommes toujours avec nos invités Monsieur Charlie et Frédéric Adam. Frédéric, est-ce qu'on peut participer dans le domaine privé justement au réemploi de matériaux, à la revalorisation de matériaux de construction, par exemple si on achète une maison, qu'on fait des travaux ou...
Oui, bien sûr.
Chouette.
Le meilleur truc à faire, si vous avez... l'aventure de rénover une maison, par exemple, bah, c'est de conserver un maximum de choses. Mmh. C'est tout bête, mais le déchet qu'on préfère, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, récupérer un maximum de matériaux, ne pas les jeter, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, il y a aussi pas mal d'initiatives qui peuvent être ouvertes aux bénévoles ou aux particuliers. Alors nous, le plateau circulaire, on est plutôt une entreprise dédiée aux professionnels de construction.
D'accord. Okay.
On a un business model qui fait qu'il faut qu'on travaille plutôt sur des volumes assez importants. Donc on est plutôt pour les professionnels. On récupère des quantités assez importantes et on essaie de revendre des quantités assez importantes. Mais il y a aussi des initiatives comme en Normandie toujours, le Hangar Zéro au Havre. Qui travaille pas mal sur le sujet, aime beaucoup. Je sais qu'ils ont fait pas mal de chantiers participatifs pour intégrer des matériaux de réemploi dans leur nouveau local. Puis il y a aussi pas mal de ressourceries qui sont souvent des associations auxquelles on peut participer et qui ouvrent des rayons dédiés aux bâtiments ou aux matériaux de la construction. Voilà.
Ok, super. Et toi, du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler dans ce domaine-là ?
Alors, je suis ingénieur de formation et j'ai toujours travaillé dans le conseil environnemental pour le secteur de la construction. Et puis le réemploi, c'est devenu un sujet assez évident. On se dit que c'est évident de toute façon, mais ça ne l'était pas au tout début et ça commence à venir. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé à devoir faire des ACV, donc l'analyse de cycle de vie de nos bâtiments, à essayer de limiter l'empreinte carbone. Et on s'est rendu compte que les matériaux qui étaient réemployés, comme ils ont déjà eu une première vie, ils ont économisé ils ont déjà rentabilisé, on va dire, leur impact environnemental. Et on peut considérer que sur leur deuxième vie, ils sont zéro carbone. Donc, c'est un peu ça qui a tiré le secteur de la construction vers le réemploi. Et après, très concrètement, et ce serait dommage de ne pas en parler ici, moi, je suis arrivé dans le réemploi avec ce chantier expérimental de la grande halle de Colombelles.
Donc, chez nous.
Voilà, yeah. On y est. Mmh. On est aujourd'hui tout de suite là en train de parler dans un studio qui a été fait, qui était l'ancienne cité de chantier de la grande halle de Colombelles. Et ce bâtiment est fait avec quasiment 100% de matériaux de réemploi. Le seul matériau neuf, c'est du bois qui a été intégré dans la structure.
Par le collectif TC.
Tout à fait, ouais. Architecte bâtisseur. Donc c'est... Voilà, alors, ça fait partie des projets expérimentaux qui font qu'on peut se lâcher, aller assez loin dans l'expérimentation et puis voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Voilà, donc ça fait partie des c'est ce projet-là, moi, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui a fait naître cette idée de la plateforme plateau circulaire avec le besoin de stockage qu'on a tout de suite vu sur ce chantier. Quoi.
D'accord. Et justement, du coup, si on veut en savoir plus sur le plateau circulaire et le réemploi, est-ce que tu as des petites infos, des endroits où on peut en savoir davantage ?
Oui, on peut consulter le site internet du plateau circulaire. Oui. Alors c'est www.plateaucirculaire.fr, c'est très simple. Voilà, on a notre catalogue de matériaux. Alors c'est pour ça qu'on est un peu dédié aux professionnels. On essaie d'avoir un catalogue assez récurrent pour proposer des matériaux en quantité importante et pour que les architectes, les professionnels de la construction puissent se projeter en fait dans l'intégration du réemploi. Voilà, donc vous pouvez consulter ça si vous voulez.
Ok, super. Et puis on rappelle aussi qu'il y a des visites réemploi au WIP.
Absolument.
Avec toi, Valentin et Stéphanie Pally aussi.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc vous pouvez réserver sur le site du WIP, il y a les dates et les créneaux pour avoir une visite guidée du réemploi.
De ce chantier expérimental. Et c'est vrai que c'est une super immersion dans un projet où on voit tout de suite comment... Le potentiel qu'on peut avoir dans les matériaux de réemploi et comment ils sont intégrés, et c'est très joli, donc ça vaut le coup.
C'est chouette, nous on valide en tout cas, hein, forcément. Ok, et merci beaucoup. Et du coup, vu qu'on a parlé des petites échelles et de la grande échelle, on pourrait également parler des moyennes échelles en se posant la question de nos objets informatiques comme les ordinateurs. Et pour cela, retour sur l'association Artify que nous étions allés interviewer en septembre dernier durant la grande braderie réemploi organisée par le WIP et la fondation Le Galet.
Artify, c'est une association d'entraide informatique. Nous, on est des libristes. On défend les logiciels libres au niveau de l'informatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de matériel qu'on va mettre aux déchets parce qu'ils ne fonctionnent plus, ils sont trop lents et autres. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'ordinateur qui est trop lent, c'est le système qu'il y a dessus. Donc nous, on défend des systèmes libres qui permettent en fait de redonner vie aux ordinateurs qu'on a cru devenir des déchets. L'idée aussi, c'est que nous, du coup, on défend l'utilisation avec des logiciels libres, mais on défend aussi la revalorisation du matériel. Du coup, on récupère du matériel qui est considéré comme défectueux pour le revaloriser et pour le revendre à un prix solidaire dans le but de mettre un uppercut à la fracture numérique. Donc là, à vrai dire, les ordinateurs, ici, on les fait à partir de 30 euros, ce qui est vraiment dérisoire. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir redonner accès aux gens qui n'ont pas les moyens, à redonner l'accès au numérique aux gens qui n'ont pas les moyens, tout simplement.
D'accord. Et vous avez, du coup, là, c'est les ordinateurs que vous vendez, c'est vraiment pour tout type d'utilisation ?
Tout à fait. On a tous une utilisation du numérique aujourd'hui. Donc, du coup, au bout d'un moment, est-ce qu'on se laisse continuer à se faire avoir par les outils numériques ou est-ce qu'on reprend la maîtrise de ceux-ci ? Et passer par les logiciels libres, c'est une très bonne étape pour reprendre la maîtrise sur ces outils-là. Là, on parle des ordinateurs, mais on pourrait parler des smartphones aussi. Et puis, dans les outils libres, il y a aussi tout ce qui est service. Parce qu'autant vous dire que maintenant, avec tout ce qui est GAFAM, on a aussi énormément d'entreprises qui récupèrent nos données personnelles, etc., et qui vont les revendre à des publicitaires. Et les logiciels libres ne font pas ça. Donc du coup, c'est plutôt très sécurisé. On peut s'inscrire sur les permanences, parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais on a des permanences à la Maison des Solidarités, directement dans l'agenda. Et vous avez tous les services qui sont expliqués sur le site web.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker le site de Artify ou à aller faire un tour dans leurs locaux, justement, à la Maison des Solidarités à Caen. Et on remercie nos invités d'avoir répondu à nos questions. Et on va tout de suite passer aux fameuses clés de lecture de notre ami Raphaël Passier, qui va aujourd'hui parler d'un sujet qui touche à certaines sortes de déchets, qui se rapproche presque de la science-fiction. Voilà, jingle.
Et oui, on parle des déchets nucléaires, des déchets de nos centrales nucléaires qu'on connaît bien en France, puisque c'est, alors là, je fais de tête, hein, j'ai pas vérifié, je crois 80% de notre électricité qui est produite par le nucléaire en France. Le documentaire dont je vais vous parler ce soir traite de ce sujet des déchets nucléaires. Donc bon, j'ai extrapolé un peu le sujet des déchets. On n'est plus tout à fait sur la même dynamique que le zéro déchet, quoique, hein, y a un rapport. Et ça s'appelle Into Eternity, un film pour le futur, réalisé par le Danois Michael Madsen, qui s'intéresse à Onkalo. C'est un site d'enfouissement des déchets très 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 profond sous la roche en Finlande. Donc en finlandais, Onkalo, ça veut dire la cachette. Et je vous propose d'écouter un petit extrait de la bande-annonce du film.
I am now in this place where you should never come. We call it Onkalo. Onkalo means hiding place. Onkalo must last 100,000 years. Nothing built by man has lasted even a tenth of that time span. But we consider ourselves a very potent civilization.
Alors, tout est bien résumé dans ce qu'on attend en anglais dans la bande-annonce. Donc, je vous parlais le nom du site, Onkalo, où il s'agit d'enfouir ces déchets, de protéger en fait les humains et tous les êtres vivants de ces déchets radioactifs qui sont extrêmement dangereux, puisque voilà, être en contact avec eux, ça va toucher nos molécules d'ADN. Et du coup, c'est soit la mort, soit des graves malformations ou effets très très nuisibles sur la santé. Et il faut 100 000 ans à ces déchets radioactifs pour perdre leur dangerosité. Donc les garder très longtemps enfouis. Et 100 000 ans, en fait, il n'y a aucune construction humaine qui a duré autant de temps. Donc c'est un sacré défi, mais comme on se croit les plus puissants, les plus forts, on se dit « on va y arriver ». Dans le documentaire, le réalisateur nous emmène du coup à la découverte de ce site en construction qui sera fini seulement en 2100 parce qu'il y a plein de galeries à creuser plusieurs kilomètres sous la roche finlandaise. Et du coup, ça donne lieu à de belles images assez contemplatives, assez poétiques. On voit les machines qui creusent la terre, les ouvriers vraiment dans ce tunnel, un peu au milieu de nulle part. C'est assez onirique, assez fantastique. Et en même temps, ça interroge sur notre condition humaine, puisque les questions qui se posent, c'est ok, là, on fait site. Dans 100 ans, il sera fini, on aura stocké les déchets. Alors, juste les déchets de la Finlande, hein. Voilà, c'est autant d'efforts juste pour les déchets de la Finlande. Donc, potentiellement, il faudrait que chaque pays qui a des centrales nucléaires fasse le même travail pour protéger les vivants des déchets nucléaires. Et avec tous ces déchets, l'idée, ça va être, au bout de 100 ans, on a fini de les mettre dans le site, hop, on referme avec une grosse dalle de béton et on oublie. On oublie que c'est là parce qu'ils ont envisagé plein de solutions. Est-ce qu'on met des panneaux pour avertir les futures générations ? Attention, hyper dangereux, n'y allez pas. Le risque, c'est que les gens aiment le danger, donc ils vont y aller quand même. Donc leur principe, c'est plutôt faire en sorte que les gens oublient qu'il y a ça et espérer que personne n'y retourne, n'ait l'idée « Tiens, on va creuser ici, voir si jamais il y a des trucs intéressants. » Et ça oblige à réfléchir au futur et à se dire, dans 100 000 ans, ça se trouve, il n'y aura plus d'humains, ou on sera retourné à l'âge de pierre, ou ça sera des créatures hybrides qui ne comprendront pas du tout le monde comme nous. Ça rend hyper humble de penser comme ça. Et en même temps, on se dit aussi, on a bien niqué la planète et on cache tout, on fait en sorte que ça nuise pas trop aux générations futures. Et comme le dit un des témoins interviewés à la fin du documentaire, bonne chance pour les générations futures. Parce que le documentaire est tourné un peu comme ça, en mode, c'est un message adressé à ceux qui découvriront peut-être dans 100 000 ans ce site d'enfouissement des déchets. Donc un documentaire très intéressant à regarder, entre le documentaire et le film de science-fiction, c'est à visionner. Vous pouvez le retrouver notamment en VOD sur plusieurs plateformes et par exemple Univers Ciné, c'est 2-3 euros pour le regarder. Ça date de 2010, mais c'est encore très actuel aujourd'hui.
Super, merci ou pas merci Raph de nous avoir foutu bien la déprime pour cette émission. Ok, mais c'était super intéressant en tout cas. Et du coup, c'est l'heure à présent de la chronique réseaux sociaux sur le zéro déchet. Et du coup, je vais vous partager mes petites trouvailles des réseaux sociaux si vous souhaitez en savoir plus ou avoir des tips sur la question. Et cette semaine, du coup, je vous recommande plein de choses en fait dont a déjà parlé Monsieur Charlie avant dans cette émission. Donc, comme le blog La famille presque zéro déchet, créé par Jérémy Pichon et sa famille, dont on a écouté un extrait du coup en début d'émission. Et du coup, leur site, il répertorie plein d'articles pour changer son mode de vie, que ce soit sur le plan matériel ou l'état d'esprit. Je vous recommande également la page Instagram bgin.clean, genre bgin.clean, tenu par Bruno Gin, qui en plus de militer pour une plus grande participation des hommes dans la répartition des tâches ménagères, ou tout simplement sa passion pour le ménage et le rangement, nous partage plein de tips sur le ménage zéro déchet pour tout nettoyer. Il donne ses recettes nettoyage et techniques pour réussir à avoir une maison propre et un mode de vie organisé. Et hormis les réseaux sociaux, je voulais vous partager un petit tips pour aider votre famille à se mettre au zéro déchet, ou vos proches en tout cas. C'est une technique que j'ai essayée et qui a son petit effet, de surprise en tout cas, auprès de vos proches. Donc pour Noël ou pour les anniversaires, vous pouvez vous lancer dans la fabrication d'un kit zéro déchet composé de ce que vous voulez. Moi j'y mettais plein de jolis petits sacs en tissu pour les courses, soit confectionnés maison, soit par le collectif du Marais qui en fabrique et qui en vend. Vous pouvez y mettre aussi des shampoings faits maison, des produits ménagers maison ou des recettes et ingrédients pour les confectionner, des lingettes démaquillantes lavables, des rasoirs réutilisables, des tupperwares, des tote bags. Je vous laisse vous renseigner. Certes, vous observerez la surprise de vos proches en déballant les cadeaux alors qu'ils s'attendaient peut-être à un parfum ou aux dernières baskets à la mode, mais si c'est fait avec amour, ils ne peuvent que être touchés et essayer au moins pour vous faire plaisir et peut-être l'adopter sur le long terme. Effet garanti. Et justement, dans cette salle, est-ce que nos invités ou nos chroniqueurs ont des bonnes petites adresses ou des bons tips 100% canés pour adopter un mode de vie qui limite les déchets? Je vous laisse le temps de réfléchir, je vous prends par surprise.
Moi, comme ça, spontanément, je pense notamment sur l'ameublement, etc., à la COP 5%. On trouve plein de trucs, genre de la vaisselle, des meubles, etc. Ben, en mode récup, réemploi. Donc, ouais, c'est assez chouette.
Il y a la Chifo aussi.
La Chifo.
J'aime bien les fouiner, moi, là-bas.
On en a parlé, ouais.
Chifo qui est sympa. Emmaüs, qu'on a dit tout à l'heure également.
Charlie, tu dois avoir des tips, toi?
Plein. je vais reparler des savons de Joya, qui sont dans plein de biocoop, sur les marchés. Et c'est vrai que pour le corps, c'est super. Effectivement, Emmaüs, Le Bon Coin. Enfin, Emmaüs, Le Bon Coin, c'est pas du tout local, mais enfin, on peut acheter des choses de manière locale sur Le Bon Coin. Après, il y a beaucoup de... ce qui est important, en fait, c'est d'acheter local. Et il y a beaucoup de créateurs et créatrices, en fait. Je pense à une association qui s'appelle Lapan, qui s'écrit Lapan, A-P-A-N-O-N. Lapan, qui est un collectif de créatrices où c'est beaucoup de choses zéro déchet, bijoux, etc. Qui fait pas mal de choses. Donc là, pour les cadeaux, effectivement, ce qui est important pour moi, surtout, c'est de consommer local pour ces cadeaux. C'est une très bonne idée que tu as citée, Analou. Mais voilà, si on peut ouvrir un peu plus à la consommation locale pour nos cadeaux, je pense que ça fait encore plus plaisir.
Carrément. Eh bien, super. Eh bien, merci à tous. Et puis, on va retrouver à nouveau Pierre avec sa chronique musicale. Ouais. On t'écoute, Pierre.
Et oui, et je vais faire juste un petit récap avant, puisque chaque année, plus de 300 millions de tonnes de plastique ne sont pas recyclées. Les conséquences sur la nature sont gravissimes, notamment sur les océans, qui contiendraient, selon la revue Science, plus de 110 millions de tonnes de déchets plastiques. Des îles entières se retrouvent en fait recouvertes par des déchets. C'est le cas de l'île Anderson, sur laquelle 17 millions de tonnes de déchets se seraient accumulées, car l'île est située en fait tout proche d'un tourbillon géant qui s'appelle le GIR du Sud-Pacifique. Au-delà aussi du désagrément esthétique, ces déchets menacent la moitié des oiseaux marins et au moins 200 espèces de poissons, crustacés et mammifères vivant dans les océans parce qu'ils confondent ces déchets avec de la nourriture. Et le temps est loin où les explorateurs découvraient des îles désertes avec des plages de sable fin, comme on peut voir dans certains films ou lire dans certains livres. Les aventuriers d'aujourd'hui, eux, s'ils découvrent une île, ont bien des chances qu'elles ne soient constituées que par des déchets plastiques. Et vous allez me dire, mais Pierre, ta rubrique, c'est bien sur la musique ? Bien oui, car une chanteuse suisse que j'ai découverte, qui est peu connue en France, je l'ai découverte en me baladant sur YouTube, faisant mes petites flâneries du soir sur YouTube. Elle en a fait un titre, et je vous présente Onesia Rittner, avec son titre « Sous les déchets, la plage » de son album « D'accord », qui est sorti en mai 2011. Une musique, vous allez voir, qui est assez engagée, un texte fort, mais une belle musicalité qui est remplie de douceur. Je vous laisse apprécier ce titre.
Tombent les petits papiers par terre, les capsules et les canettes, tombent les bouteilles de verre, les paquets de cigarettes. Je me balade en slalom, je marche sur un journal, je m'englue sur un chewing-gum, et vous trouvez ça normal? Tombent les bouteilles en plastique et me mettent plein la vue. Il n'y a rien d'esthétique quand ça pue et ça pollue. Je me balade de travers, c'est un drôle de paysage. Sous la crasse, les prés verts et sous les déchets, la plage. Commission vole sur mon avenue, tombe la consommation. Je me balade en zigzag, un bonbon sous la basket. Si pour vous c'est une blague, alors changez de planète. Tombe jusque devant ma porte les kilos d'âme égoïste, tout ce que le vent m'apporte. Je n'ai pas fini ma liste. Je me balade comme je peux entre les vieux emballages et quelques pas hasardeux, mais sous les déchets, la plage. Sous les déchets, la plage. Sous les déchets, la plage. Tous ces usages ancestraux. Je me balade en fuyant les cortèges de mégots. Je m'en sors en vacillant, vous trouvez ça rigolo? Tombent les bouteilles sur ma route. C'est pas que la faute aux autres, y en a tellement qui s'en foutent. C'est quand même un peu la nôtre. J'ai arrêté mes balades, ma planète fait naufrage. Mon monde est tout malade et sous les déchets, la plage. 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 Sous les déchets, la plage.
Et vous êtes toujours sur Bonjour Turbine, dans cette émission dédiée au zéro déchet. Et on vient de s'écouter le titre « Sous les déchets de la plage » de Onesia Rittner. Mais Pierre, avant de nous quitter, on rappelle que tu es également serveur au Spot, le restaurant du WIP. Et tu aimerais bien nous parler du label Surfrider, je crois.
Exactement. On est soutenu depuis, ça fait 4 mois, je crois, par la fondation Surfrider, qui accompagne et labellise certains restaurants avec le label Ocean Friendly Restaurant. Mais c'est quoi Ocean Friendly Restaurant ? En fait, plus précisément, c'est une charte éco-responsable qui accompagne les restaurateurs dans leur démarche pour qu'elles soient plus respectueuses dans l'environnement et les soutient dans leur effort. En adoptant cette charte, en fait, les restaurateurs s'engagent à respecter dans leur activité un nombre de critères préétablis par Surfrider Europe et deviennent alors des Ocean Friendly Restaurant. Donc, il y en a 68 en France depuis hier. Voilà, il y en a 68. J'ai regardé hier. Donc, les critères. Quels sont ces critères ? Il y en a 8. Donc, pas d'utilisation de polystyrène expansé ni de plastique à usage unique. 2. Les plats en majorité sont faits avec des produits locaux, de saison et ou bio, dont la provenance est renseignée. Aucune espèce menacée d'extinction n'est proposée sur la carte. Pas d'utilisation de bouteilles en plastique pour les boissons servies sur place. Après, des pratiques de recyclage et de tri des déchets sont mises en place dans les restaurants. Des cendriers sont disponibles à l'extérieur du restaurant. Utilisation de produits d'entretien respectueux de l'environnement et au moins un plat végétarien est proposé sur la carte. Puisqu'il devient en fait difficile de suivre ses convictions et consommer comme on le souhaite lorsqu'on se rend dans des lieux publics et plus précisément au restaurant. En effet, aujourd'hui, le secteur de la restauration n'est que très peu engagé dans la transition verte. Pertes dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, gaspillage, abondance des déchets et utilisation du plastique à outrance, en fait. Donc voilà ce superbe label qui nous a été décerné. Vous pouvez venir voir dans le restaurant la petite plaque en bois qui est à l'entrée du restaurant.
Yeah. Et oui, et ben c'est hyper important, c'était l'instant promo du spot. Merci Pierre pour ton intervention. Et pour finir cette émission, on vous propose la chronique de Alain. C'est quoi ?
C'est qui ?
C'est où ?
C'est quand ? Alors aujourd'hui, c'est une chronique pas très développement durable ni recyclage, etc. C'est difficile dans la culture de trouver toujours des choses. Alors, je vous propose un programme très éclectique aujourd'hui. Alors d'abord, à l'auditorium de la bibliothèque de Tocqueville à Caen, le samedi 5 mars à 16h, une conférence gesticulée dans le cadre des Journées internationales des droits des femmes qui s'appelle « Le poil incarné ». Je cite quelques chose que j'ai lu sur la programmation. De nos jours, le poil est très peu présent sur le corps des femmes. Il peut pourtant prendre une place non négligeable dans son emploi du temps. Le sujet du poil est révélateur des questionnements sociétaux plus larges, le rapport à notre corps, le rapport d'autrui, le regard d'autrui, les pratiques et différences entre les sexes, l'influence de nos cultures sur nos habitudes. Donc une conférence spectacle menée par Estelle Brochard du collectif artistique L'Ouvre-Boîte. Alors dans un sujet qui est complètement différent ensuite, la Normandie est une terre de cinéma. On peut parler du Festival du film américain de Deauville, Festival du film romantique de Cabourg. De plus, près de 700 films, sans compter les séries, ont eu pour décor des lieux, paysages des villes de Normandie. L'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma, au musée de Normandie dans les salles du Rempart, au château de Caen, est visible jusqu'au 21 août et propose de révéler la diversité du patrimoine normand tel qu'il apparaît dans le cinéma. Des extraits de films, des documents d'archives, des affiches, des maquettes de décors, des photographies de tournage permettent de découvrir la variété du patrimoine normand connu ou moins connu. J'y suis allé, je vous le conseille. Ensuite, les Journées européennes des métiers d'art 2022, dont on espère qu'elles ne seront pas troublées à nouveau par la Covid, devraient se dérouler, si tout va bien, du 28 mars au 3 avril sur le thème « Des mains à l'unisson ». La programmation est en cours d'élaboration, donc je vous conseille d'aller voir régulièrement sur le site GEMA 2022. Mais près de chez nous, pas loin d'ici, à Colombelles, je vous invite à aller voir une immersion dans un atelier de maroquinerie artisanale, Amélie Ferré, 410 rue de l'Europe à Colombelles. Donc le mardi 29 mars et le mercredi 30 et le vendredi 1er avril sur rendez-vous de 10h à 19h et les samedis et dimanches 2 et 3, porte ouverte de 10h à 19h. Alors, on continue dans l'éclectisme, mais toujours dans la région, puisqu'on est, il suffit de traverser la route pour arriver à Mondeville. Et là, on va parler de musique et de cinéma. L'Orchestre Régional de Normandie, donc, dont la résidence se trouve dans l'ancienne hôtellerie de la SMN, derrière la salle de la Renaissance, propose la reprise de la trilogie Keaton, Chemin de traverse, images et musique, jeune public famille. Dimanche 27 mars, à la Renaissance, direction musicale Jean de Royer. Alors, c'est une œuvre qui a été composée par Marc-Olivier Dupin, qui est en résidence à l'Orchestre de Normandie et se prête à l'exercice délicat et passionnant de créer pour l'Orchestre Régional une musique nouvelle sur une trilogie de courts-métrages de Buster Keaton datant de 1920 et 1921. Le roi du burlesque, qui a commencé par le musical, sera ici mis à l'honneur à travers un programme de ciné-concert dont l'orchestre se fait la spécialité. 100 ans séparent la réalisation des films de la composition de la musique, une occasion exceptionnelle de rappeler l'intemporalité de cet artiste unique qu'est Buster Keaton et qui, à l'instar de Charlie Chaplin, a marqué durablement l'histoire du 7e art. On se rappelle tous de sa tête triste triste, triste, mais qui faisait sacrément rigoler. Enfin, pour finir, encore plus éclectique, un coup de cœur pour un livre que j'ai lu, qui s'appelle Paris-Briançon, alors ça n'a rien à voir avec ici, bien sûr, de Philippe Besson, aux éditions Julliard. Je vous lis la quatrième de couverture, j'espère que ça va vous donner envie. « Rien ne relie les passagers montés à bord du train de nuit numéro 5789. À la faveur d'un huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une dizaine à nouer des liens, laissant l'intimité et la confiance naître, les mots s'échanger et les secrets aussi. Derrière les apparences se révèlent des êtres vulnérables, victimes de maux ordinaires ou de la violence de l'époque, des voyageurs tentant d'échapper à leur solitude, leur routine ou leurs mensonges au pluriel. Ils l'ignorent encore, mais à l'aube, certains d'entre eux auront trouvé la mort. Ce roman au suspense redoutable nous rappelle que nul ne maîtrise son destin. Par la délicatesse et la justesse de ses observations, Paris-Briançon célèbre le miracle des rencontres fortuites et la grâce des instants suspendus où toutes les vérités peuvent enfin se dire. J'ai adoré ce roman qui m'a rappelé mon voyage à bord de ce même train de nuit au siècle dernier, il y a très longtemps. J'y ai retrouvé l'atmosphère du train lent, hors du temps, qui au réveil, au petit matin, après un long arrêt pour changer de locomotive, passer de l'électrique au diesel, nous offre le lever du jour sur les massifs alpins. C'est sublime, dans la vraie vie, moins peut-être dans le roman.
Super, merci Alain pour ta chronique touchante, surtout sur la fin. Et du coup, justement, l'émission touche à sa fin. Et on rappelle qu'on vous mettra en description de cette émission toutes les infos qui ont été citées si vous voulez les retrouver et en savoir plus. Et on remercie nos invités du jour, Monsieur Charlie, Frédéric Indan, ainsi que nos chroniqueurs Alain, Pierre, Raphaël, Alicia, Alixia à la technique. Et on espère que vous en aurez appris davantage sur le sujet du zéro déchet. À bientôt dans Bonjour Turbine.
Merci à toi, Nalou aussi.
Salut à Nalou.
Salut.